protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. On vient de voir dans le journal Réforme un entrefilé qui demandait que sont devenues certaines personnes qui ont accordé des interviews. Et dans ces personnes, il y avait Françoise Laribe avec son mari Daniel, qui ont été otages de Al-Qaïda pendant un certain temps. Mais avec Françoise, nous n'allons pas parler que de ça, parce que Françoise, elle a d'autres cordes à son arc et elle est, disons que son action est dans beaucoup de domaines. Alors, bonjour Françoise, d'abord.
Bonjour Yolande.
Alors, vous êtes protestante.
Je n'en doute absolument pas, j'allais dire.
Bon, d'accord. Et vous êtes de parents protestants, voilà. École biblique, voilà. Camp de jeunes,
voilà. Scoutisme, voilà. Monitrice, je me souviens d'école biblique, enfin, ce qu'on appelait l'écolette à l'époque, enfin, oui.
D'accord. Tout y est. Et tout ça, tout cet empilement de protestantisme, ça ne vous a jamais dégoûté ou découragé?
Pas vraiment. Disons que après mes années d'étudiante, j'ai rencontré Daniel et puis nous sommes partis tout de suite en Afrique. Et là, c'est vrai que j'avais l'occasion de pratiquer d'une façon ou d'une autre, mais j'ai toujours gardé un lien. Non, je pense que c'est à la fois, j'allais dire un lien cultuel et culturel. Hein, voilà, hein, protestant avec des origines sévenoles, ça vous marque.
Oui, vous êtes de Mialé, donc...
C'est pas vraiment... Non, nous avons une maison à Mialé.
D'accord.
Ma famille maternelle est de Quissac.
D'accord.
Voilà. De Quissac et paternelle de Nîmes.
D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez un engagement social et religieux depuis toujours, pratiquement.
On va dire ça comme ça. Disons que ça reste quand même dans ma sensibilité. Avec nos voyages aux quatre coins de l'Afrique, cet engagement a pu s'exprimer autrement, pas au sein de l'Église forcément.
Hein. Oui,
par exemple,
sûr.
Au Niger, pendant pas mal d'années, nous sommes restés 5 ans au Niger. Je me suis impliquée d'ailleurs aussi avec Daniel, hein, dans des associations, des petites ONG créées par des Touaregs, par exemple. Et puis, ce que j'ai préféré, c'était créer des ateliers de peinture avec des enfants donc d'Arlit qui n'avaient jamais touché un pinceau de leur vie. Et ça a été extraordinaire.
Alors, vous êtes artiste, et puis votre mari, lui, était directeur de mine. C'est pour ça que vous êtes allé en Afrique.
Voilà, c'est ça. Alors, Daniel, effectivement, de formation géologue, a évolué dans sa carrière. Artiste, en ce qui me concerne, disons que c'est une sensibilité.
Hein. C'est
après, je pense pas... Voilà. Hein. Tout ce qui est de l'ordre, j'allais dire artistique, effectivement, a énormément d'importance pour moi, notamment la peinture et le chant, mais la peinture surtout.
D'accord. Donc, protestante, artiste... mariée à un géologue directeur de mine, et puis un événement quand même qui bouleverse votre vie, vous êtes enlevée par Al-Qaïda
C'était en 2010.
En 2010.
En septembre 2010, effectivement, ça date déjà, mais malgré tout, j'allais dire, ça forge une vie à venir, et ça, voilà, hein, je veux dire, c'est...
Est-ce que c'est le point central de votre vie ou est-ce que vous le définissez ailleurs, le point central
non,
de
non,
votre
non,
vie?
Non, le point central de ma vie, c'est ma vie avec mon mari et la naissance de nos filles.
La vie familiale.
La vie familiale, voilà. Et des petits-enfants.
Oui, oui, oui. Et donc vous êtes enlevée, vous n'avez pas d'habits, vous n'avez pas de lunettes.
Rien du tout.
Vous ne pouvez pas lire.
On n'a pas de livre, donc la question
ne
se pose pas.
Oui. Vous pouvez pas dessiner?
Non, rien. Dans le sable.
Qu'est-ce que vous faites toute la journée?
Rien, j'aime bien dire rien, parce qu'effectivement, les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire toute la journée? Sinon, avoir recours à son imagination, à ce monde imaginaire, une dimension aussi de recherche spirituelle, et puis le fait que je sois avec Daniel quand même. Donc, on essaie ensemble de structurer notre temps, ensemble, et aussi chacun de notre côté, parce que bon, c'est pas toujours évident. Hein.
Et de ne pas désespérer, de ne pas d'être positif pour soutenir l'autre, je suppose.
Je pense que Daniel est beaucoup plus fort que moi là-dedans. il avait une capacité à s'intéresser à ce qui se passait autour de lui, c'est-à-dire les plantes, les pierres, les bêtes, les petites choses. Moi, j'ai quand même une capacité d'abstraction qui m'a aidée aussi à résister. Hein. Je suis capable de m'extraire du réel. Donc, c'est une force aussi, je pense.
La peur, le sentiment d'être abandonné?
La peur, j'en sais rien. Rétrospectivement, je pense n'avoir eu peur qu'une fois. C'est que j'ai cru à un moment donné qu'on me séparait de Daniel. Je me suis dit, oh là là là, c'est grave, comment je vais faire pour éviter? Mais ça a duré quelques heures, pas plus, parce qu'ils étaient un petit peu brouillons dans leur manipulation quand on changeait de camp. Nos gardiens.
Hein. Oui.
Mais voilà, sinon la peur, je sais qu'à un moment donné, avoir demandé à Daniel, est-ce que tu as peur de la mort? Parce qu'on entendait tonner quelques... Enfin, on savait pas que c'était des... Il y avait des combats, manifestement.
Oui, oui,
hein,
oui.
On savait pas très bien ce que c'était. Et j'étais très sereine par rapport à ça.
La voilà. Foi, donc...
Peut-être, ou toujours cette capacité à extraire du réel et à ne pas voir, j'en sais rien. Là, j'avoue que je suis en point d'interrogation.
Ouais.
Après, il y a aussi un retour extrêmement de paix, la nuit de Noël. Hein,
ouais.
Voilà. C'était extrêmement biblique, j'allais dire. Imaginez-vous dans le désert,
ouais.
Hein, avec un ciel somptueux... dans un dénuement le plus complet.
Oui.
Donc, on peut effectivement à la fois l'imaginaire et une dimension spirituelle. Tout ça peut se mettre en marche.
Oui, mais là, vous êtes, vous avez effectivement une capacité à vous extraire du réel, comme vous dites. Mais vous n'avez pas de médicaments non plus. Or, vous êtes malade. Votre vie est en danger.
Ben, je n'y pense pas. Pas vraiment. Pas vraiment, en fait. Je me souviens d'avoir, à ma libération, discuté avec Florence Aubenas, qui a été elle aussi prisonnière,
oui.
Mais sûrement dans des conditions plus difficiles, de cette possibilité que nous aurions pu être, en fait, être malades.
Hein. Oui, oui.
Et on se disait, et elle m'avait dit la même chose, en fait, le corps doit avoir une réaction. Mmh. Ou enfin le corps et notre mental, ce qui fait que finalement on n'est pas malade. Même des petits maux, moi qui suis sujette à des maux de tête épouvantables, rien pendant toute la détention. C'est quand même extraordinaire ça.
Et vous aviez confiance quand même en votre destinée, et Dieu là il était,
oui, oui.
Il était présent.
Oui 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 oui. Là j'avais confiance. De toute façon on n'a pas le choix.
Oui.
Si vous perdez confiance, vous sombrez. Moi, j'avais pas du tout envie de sombrer. On pensait à nos filles. Ça, c'était le plus difficile pour moi. C'était plus facile de penser à mes petits-enfants. Et puis, à toutes les communautés, là où la communauté protestante aussi qui pouvait être derrière. Et puis aussi la famille, la société aussi pour laquelle Daniel travaillait. Et voilà, et puis des cantiques que je me sentais aussi dans ma tête. Hein. Il y en a un.
Et ceux qui vous connaissent savent que les cantiques, vous avez une grande connaissance des cantiques.
Ah ça.
Alors après, vous êtes libérée et vous vivez sans Daniel. Alors vous vivez sans lui, au moins physiquement, mais vous vous battez pour lui. Je suppose qu'il est toujours présent. C'est votre
C'est mon cheval de bataille,
voilà,
je vais le dire.
Voilà.
Je pense, et Daniel l'imagine bien, c'est que vivre l'attente en France, si vous voulez, est plus compliqué. Ça
oui.
Paraît bizarre de dire ça que de vivre cette attente dans le désert. parce que les conditions, même si elles étaient extrêmement difficiles, c'était possible, j'allais dire, de résister dans le désert. Et il n'y avait pas de tension ni de pression médiatique. En revanche, vivre cette attente avec une pression à la fois médiatique, cette attente insupportable, c'est extrêmement difficile, très très difficile.
Et alors, j'ai lu quelque part à votre sujet, je ne sais plus où, que vous lisez Bonhoeffer. Bonhoeffer, oui. C'est ce théologien allemand qui a été résistant à Hitler et qui a été exécuté par les nazis. C'est pas très réconfortant, ça, de lire un théologien qui a été exécuté par les nazis.
Oui, mais quand même. Alors bon, moi, je suis loin d'être une théologienne et d'avoir des connaissances théologiques, mais ce que je lisais dans Bonhoeffer, du moins certains passages, me permettait j'étais confrontée à une foi immense.
Ouais. Hein.
Et ça, alors que les conditions de Bonhoeffer étaient absolument terribles, hein, quand même. Mais je lisais surtout ses lettres, et il y a un texte superbe sur l'absence qu'il a écrit. C'est un texte écrit la nuit de Noël, où il parle effectivement de l'absence, hein, et que le fait d'avoir en nous porter cette absence, c'est aussi se dire que la présence est là. En fait, il le dit beaucoup mieux que moi.
On comprend très bien. On comprend que cette présence, c'est la présence de Dieu, de l'Esprit.
Voilà, et que c'est une force que l'on porte en soi et qui nous permet effectivement de tenir. Et c'est un superbe texte.
C'est surtout, donc vous lisez Bonhoeffer surtout dans la période où il est en prison.
Voilà,
en fait,
voilà.
Que les théories théologiques.
Voilà, sur toutes ces lettres de prison qui sont absolument somptueuses. Ouais.
Et vous recevez de l'aide psychologique de la communauté protestante, vous?
Oui, c'est une aide qui m'a été très précieuse. Vraiment très précieuse. Au début, moi, je veux absolument pas entrer dans la médiatisation. Et mon frère, qui me soutient beaucoup, me dit, écoute, il faudra bien quand même un jour tu te décides. Et je me sentais pas légitime pour ce genre de choses. Et puis après, puis en même, c'est très compliqué. Hein. On entre dans une médiatisation, c'est-à-dire qu'on donne de la parole à nos ravisseurs. Hein, et ça, c'était insupportable.
Oui.
Et donc, je passe, je me dis, bon, OK, j'ai commencé par Réforme.
Oui, le journal, donc, le grand journal protestant d'actualité.
Parce que là, ça me paraissait possible.
Oui. Ouais.
Parce que j'étais reçue par des personnes qui avaient une sensibilité analogue, du moins, on va dire ça comme ça, sur le plan spirituel, et puis aussi sur peut-être la médiatisation telle qu'elle devait être perçue et conçue. Voilà.
Oui, parce que tous ceux qui connaissent le protestantisme savent que c'est une grande famille aussi, et que on retrouve des gens soit qu'on connaît, soit qui connaissent quelqu'un qu'on connaît.
Hein, voilà.
Parce que dans le protestantisme, c'est ça, donc c'est toujours... c'est plus sécurisant d'une certaine
Exactement.
Façon. Et alors, son retour. Alors, le retour de Daniel, est-ce que ça n'a pas été difficile de se réajuster?
Évidemment. Je vais dire 2 ans et demi à se batailler pour le faire revenir, à être sans arrêt sollicité. Bon, c'était déjà extrêmement prenant. Et il revient et
il revient avec ses défauts.
Oh ben certes, mais il est obligé aussi.
Je veux dire, parce que pendant
ah ben
3 ans,
idéalise.
Voilà,
on
vous
idéalise.
Battez pour lui et puis il revient, il laisse traîner ses chaussettes par terre ou.
On idéalise complètement l'absence, ce fait que effectivement on idéalise la personne, à laquelle on pense. Alors c'est vrai, puis bon pour lui en plus c'est compliqué. Il y a 3 ans d'absence, il a été extrait de ce monde pendant 3 ans, je veux dire, c'est pas facile. Il faut qu'il reprenne sa place. Non, c'est pas. Voilà. Et donc, au début, ça a été extrêmement difficile. Hein,
il a changé, votre mari. Il a.
Oui et non. Oui. Je trouve quand même qu'il est un petit peu plus à l'écoute. On va dire ça comme ça. J'en profite. Hein.
Ah oui. Il va nous écouter. Donc.
Voilà, sûrement, oui.
Mais il n'y a pas eu de durcissement, d'aigreur, de...
Ah non.
Ah ben ça,
non.
C'est merveilleux.
Non, pas de durcissement. Peut-être un petit peu plus sur des questions précises, obsessionnelles, peut-être ouais. plus, voilà, avec des obsessions qui revenaient un peu en boucle, qui de ce côté-là, bon, font partie aussi de son caractère, hein, donc, mais rien de qui nous empêche de vivre au quotidien. Hein,
oui, parce que je pense souvent à cette femme anglaise, là, iranienne et anglaise, je sais plus son nom, qui a été emprisonnée pendant si longtemps en Iran et que son mari a essayé de faire libérer, puis qui a été libérée finalement. Et je me dis, ça doit être difficile de revivre en couple comme ça.
Il faut réajuster, effectivement. Ouais. Il faut réajuster un quotidien.
Ouais. Hein.
Un quotidien, il est fait de quoi? De petites choses. Hein.
Ouais.
Hein, comme vous dites, de chaussures qui traînent dans l'entrée, de bols, de tasses sur la table, alors qu'on voudrait qu'elles soient quand même dans l'évier.
Oui, bon, qui n'est pas fondamentalement...
Des choses idiotes, mais complètement idiotes. Et puis après, quand même, des grandes discussions sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, parce que sur tout ce qui s'est passé entre-temps, en fait.
Et voilà. Dans votre couple, vous revenez souvent dessus, au moins au début, c'est quelque chose qui fait partie de votre expérience de couple de...
Bah oui, de toute façon, ça c'est,
oui.
on est marqué. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jours où, personnellement, ça ne revienne pas en mémoire. On en parle avec Daniel, mais d'une façon extrêmement détendue. Et alors, bizarrement, c'est là où la mémoire est quand même extrêmement sélective, c'est qu'on envoie, je vais pas dire les bons moments, mais les beaux moments.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a évolué quand même pendant ensemble 6 mois des paysages somptueux.
Ah oui.
Ah oui, imaginez le désert quand
oui,
même.
Oui, oui.
Que vous avez peut-être vu aussi.
Je,
hein, que
je
vous
connais le désert,
donc.
Mais je ne connais pas le désert de ce coin-là, Niger, Mali, je ne connais pas.
Ah ben oui, c'est le Sahara, c'est le désert tel qu'on l'imagine. C'est l'image d'Épinal, j'allais dire.
Oui, oui, d'accord.
Hein, du désert.
D'accord. Et alors, depuis, vous êtes quelqu'un. D'abord, on va peut-être faire une pause musicale et puis on reviendra sur votre vie ou on viendra sur votre vie ensuite. Alors, vous nous avez choisi des chansons juives au violoncelle.
Oui, 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 interprétées donc au violoncelle. Et pour moi, ce sont à la fois des musiques extrêmement belles parce qu'elles renvoient à un monde qui a une dimension quand même religieuse, hein, voilà, le monde juif sûrement, et la violoncelliste extraordinaire, hein, Sion Interton.
Et ces chansons juives, elles font aussi, enfin, elles sont nées du désert, enfin, il y a toujours cette idée.
On peut imaginer ça, ouais. Et aussi d'un monde révolu.
Ouais.
Hein, et c'est vrai que moi, je suis extrêmement sensible à toutes ces mondes qui sont révolus et qui existent de par leur culture, qui continuent de vivre dans la musique, dans la peinture, dans la littérature. Et ça, je pense que...
Eh bien, on va écouter cette musique et puis se plonger dans ce monde révolu. Et on se retrouve ensuite.
Thank you.
Alors, on se retrouve avec Françoise Laribe, donc, avec qui on a évoqué donc ce gros bouleversement de vie avec le fait d'être otage au Mali. Et puis, donc, après votre tour, donc votre vie ensuite. Vous êtes quelqu'un de très occupé. J'ai eu du mal à avoir un rendez-vous. J'ai eu du mal. Bon, vous êtes quelqu'un d'hyper occupé.
Hyper occupé, je n'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai des centres d'intérêt très forts. Hein. Disons qu'il y a le cinéma, puisque ouais. j'ai intégré avec plaisir Profil, hein, qui est donc cette.
Cinéma chrétien, ça.
Protestant, on va dire Profil. Je pense qu'il y a quand même un peu protestant devant. Hein.
Protestant.
Disons,
oui.
Voilà. Ça m'intéresse, c'est autour du cinéma et de l'analyse de films, c'est très intéressant.
Ouais.
Bon, je me remets à la peinture. Nous avons des petits-enfants que j'aime beaucoup rencontrer.
Ils ont quel âge?
17, 16, et puis après 9, 8 et 3. Voilà.
Ouf, ça fait beaucoup, ça. Il y a tous les âges, alors.
Il y a tous les âges, mais c'est très, très intéressant.
Ouais.
Donc,
ouais.
Il y a ça, et puis... pendant quelques temps aussi, j'ai donc été très 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 occupée par mon engagement au sein de la paroisse de Mialet.
Alors, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez votre à la paroisse de Mialet?
J'étais au conseil presbytéral,
ouais.
Et puis j'ai été pendant presque 3 ans présidente du conseil presbytéral parce que il y a eu un petit problème au démarrage et la présidente a démissionné.
Mmh.
Et donc, il fallait bien quand même trouver une...
Quelqu'un.
Voilà, quelqu'un.
Voilà.
Et puis voilà.
Alors, donc... Mialet, qu'est-ce qu'on fait au conseil presbytéral de Mialet? Je suppose que l'Assemblée...
Plein de choses.
D'accord. Bon, parmi elles, je suppose qu'il y a l'organisation de l'Assemblée du désert.
Pas vraiment. En fait, ce qui est important, ben, c'est la vie quand même de l'Église.
Oui.
Hein, déjà, la vie cultuelle et culturelle de l'Église. Donc, nous avons eu la chance d'avoir un pasteur, parce qu'il y en a un qui est parti, il y en a un
oui.
autre qui est arrivé, on était dans l'attente d'un pasteur, donc voilà. Ça a été quand même un point positif. Et puis bon, il y a aussi la dimension culturelle, puisque au sein de l'Église, nous avons créé donc une association culturelle, voilà, qui permet donc d'organiser des manifestations à la fois, j'allais dire, lucrative, parce que bon, on a aussi besoin de ça, n'est-ce pas, dans
oui.
nos églises, et d'une façon tout à fait légale, et des spectacles en direction et ouverts sur la ville de Mialet. Voilà. Après, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plus la dimension, ben, j'ai adoré préparer un culte le culte de Pâques, par exemple, qui soit quelque chose, un peu musical, la veillée de Noël aussi, parce que bon, pour ça, je trouvais que c'était important d'ouvrir cette veillée sur Mialet.
Hein, d'accord. Voilà. Mais vous êtes combien à Mialet?
Lorsque j'étais au conseil presbytéral, nous étions 6.
Non, mais je demandais la population de Mialet.
Ah,
voilà. Mais on va venir
oui,
au conseil presbytéral.
Il y a à peu près 600 et quelques habitants, 650, là je vous fais un peu
650,
à la
louche,
on va dire
près.
Ça comme
650
ça.
650 habitants, combien de protestants?
Mais je n'en ai aucune idée, je pense qu'il y en a un bon nombre, parce que c'est quand même la vallée, une vallée sévenole qui compte, je veux dire, dans le monde protestant. Au niveau de l'Église, je pense qu'il y avait 200, 150 à 200 foyers...
Oui, inscrits.
Inscrits, je ne vais pas dire ça. Oui, répertoriés.
Répertoriés,
des
d'accord.
sensibilités, voilà.
Oui, donc une petite moitié...
On va dire, voilà. Hein,
c'est beaucoup.
Avec la diaspora, j'allais dire.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
les gens qui reviennent
qui
en
reviennent
Mac.
L'été.
Voilà, les familles,
c'est ça.
Oui, oui. Après, au niveau des forces vives, eh ben, vous devez connaître comme moi... que là, on est dans la peau de chagrin.
Oui, oui, oui.
par
oui.
rapport au nombre de personnes inscrites.
Oui, bien sûr, mais comme toutes les associations,
voilà.
et toutes les associations protestantes, et donc ceux qui s'engagent, eh bien, sont appelés à s'engager ailleurs, à faire ceci, à faire cela,
oui, oui,
etc. Et donc, Tout ça, c'est. Mais vous résidez à Nîmes, alors vous êtes plus Nîmoise ou Mialet?
Non, en fait, nous avons une maison, une petite maison à Mialet, hein, ouais. Depuis pas mal d'années, déjà plus de 30 ans. C'était notre point de chute, j'allais dire, lorsqu'on revenait d'Afrique, et sur Nîmes, voilà. Et donc, nous habitons sur Nîmes. La maison de Mialet étant extrêmement froide en période hivernale.
Comme beaucoup de maisons cévenoles,
oui. D'ailleurs. Comme beaucoup de maisons, oui, de vieilles maisons cévenoles. C'est vrai que c'était un peu compliqué parce que j'ai fait énormément de trajets Nîmes-Mialet. C'était pas toujours très satisfaisant pour moi. En revanche, de mai à septembre, j'étais plus présente sur Mialet, voilà.
Et donc, vous allez aussi à Nîmes, vous fréquentez aussi le...
Mais c'est nouveau, ça.
Ah oui.
Disons que la paroisse de Mialet continue de prendre une place dans ma vie. Mais je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir ailleurs, sur Nîmes. Et c'est vrai que j'ai pris contact avec la paroisse de la Fraternité.
D'accord.
Et là, actuellement, je vais au culte depuis quelque temps à la Fraternité. Après l'arrêt du conseil presbytéral, il m'a fallu un temps, j'allais dire, de latence. J'avais besoin de calme, parce que c'est pas toujours facile, conseil presbytéral.
Si, il y a des gens qui connaissent des séances, enfin des lieux où le conseil presbytéral, c'est facile, qu'ils le fassent savoir à la radio, on diffusera.
Non, mais il y avait des moments extrêmement constructifs.
C'est toujours très constructif, c'est toujours passionnant, c'est prenant, et puis c'est pas toujours.
Oui, il y a des personnalités différentes, de toute façon, qui n'ont pas au départ décidé de vivre ensemble.
Voilà.
Son temps soit-il spirituel.
Je renvoie à l'article de Frédéric Rognon qui s'intitule « Le protestantisme serait-il... » Non, enfin c'est moi qui ai intitulé quand on s'est rencontrés.
Oui. «
Serait-il conflictogène ?» Ça, c'est le titre de l'émission. En fait, lui, c'est violence spécifique dans le protestantisme, mais violence spirituelle, prise de position, prise de pouvoir, en fait.
Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours pensé que de toute façon... Où que l'on aille, il y aura toujours des prises de pouvoir et il y aura toujours des personnes qui ont des égos plus ou moins développés et qui va faire effectivement qui va provoquer des tensions. Ça c'est intéressant. En fait, c'est dans les normes, dire. Hein. C'est l'humanité, de toute façon. Hein. Je pense que c'est comme ça. Après, c'est vrai que ça m'intéresse parce que nous avions discuté de cet article là dont vous m'avez parlé et j'aimerais bien en avoir un peu plus
d'accord,
la teneur. On en parlera.
Et alors, donc, le désert, justement, quelle importance ça a pour vous, puisque vous avez été en Afrique, vous parlez de la beauté du désert du Mali, Niger-Mali. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le désert ?
Je pense que c'est toujours cette dimension spirituelle, cette ouverture sur un monde à devenir et à imaginer. Il n'y a pas d'obstacle. Déjà, au niveau de la vue, ça reste quand même quelque chose de... C'est extrêmement lointain, ça permet quand même une ouverture, ça permet aussi à l'esprit d'imaginer d'autres ailleurs, en fait. Et puis c'est le monde de la Bible aussi pour moi, ça reste quand même quelque chose... Puis c'est très beau, en fait, des paysages à l'infini, qui se développent à l'infini, avec des couleurs... à la tombée de la nuit prennent des teintes extraordinaires, voilà.
Et ce qui m'a frappé, c'est ce que vous disiez quand vous êtes rentrée en France, et notamment sans votre mari, la pression du monde en France, la pression du monde occidental, la pression dans laquelle on vit, et au désert.
On l'a pas. Curieusement, lorsque nous avons été donc pris comme otage, j'ai dit, moi, j'avais décidé que je prendrais de la distance en revenant à Arlit, puisque c'était un retour, avec tout ce qui pouvait m'encombrer.
Oui.
Et alors, je dis, tiens, là... Oui. Là, je vais être plongée au cœur même de ce que je pouvais, même au-delà de, de l'imaginable, quoi.
Ouais. Alors, dans le désert, bon, vous êtes familière avec l'œuvre de Théodore Monod.
Ben oui.
Théodore Monod, ce grand naturaliste protestant, qui a créé avec son père la Fraternité des Veilleurs et qui lit les béatitudes ou qui récite les béatitudes sur son chameau. Je garde toujours, justement, quand je suis dans le désert, cette vision de Théodore Monod sur son chameau, récitant les béatitudes et parlant le soir avec les chameliers musulmans et parlant de Dieu. Vous retrouvez ça dans le désert? Alors, peut-être pas quand vous étiez avec Al-Qaïda, mais dans vos autres expériences?
Oui, sûrement. Alors, enfin, moi, je garde un souvenir ébloui d'un voyage partagé, dans le nord, dans le sud tunisien, où nous avons pu, Daniel et moi, renouer avec le désert. J'avoue que lorsque Anne-Sophie Dantan, la pasteur donc du ZES, qui a organisé ce voyage avec Philippe Verseille, son mari, je me suis dit, on y va, on n'y va pas. Et puis, j'avais peur de ne pas retrouver le désert que l'on avait connu. Et en fait, c'est un autre désert, c'est effectivement, mais ça reste toujours le désert.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé de fort dans ce voyage? D'abord, bon, vous avez déjà trouvé le fait de ne pas retrouver l'ambiance de Al-Qaïda, je pense.
Ça, la sérénité, le fait aussi que l'on partageait des moments autour de la Bible, ça nous permettait quand même de relire des textes bibliques, même si le temps qui était réservé en principe au silence était pas toujours respecté, parce qu'on était content de rencontrer d'autres personnes qui pouvaient discuter avec nous autour de ce qui nous préoccupait. Ça a été un très beau moment.
Ça permet de lire des textes qu'on ne connaît pas ou
autrement, de les lire autrement. Parce que pour moi, ils étaient ancrés dans la réalité, ça paraît idiot de dire ça, mais spirituelle. On peut pas dire une réalité lorsqu'on parle de spiritualité, mais on va dire ça comme ça,
Et qu'est-ce qui vous a nourri? Cette spiritualité, vous la voyez où? Dans les textes, dans la rencontre, dans le désert?
Dans la rencontre, dans le désert, dans ces chameliers aussi, en fait. Ces hommes du désert, là, qui étaient... On a trouvé qu'ils étaient extrêmement présents, sans jouer, une dimension touristique. On est en plein ramadan, c'était quand même extraordinaire de voir ces gens qui, le soir... était à la fête et qui partageait cette fête avec nous. Et moi, c'est vraiment des moments avec Daniel que l'on a appréciés. Il faisait pas ça pour faire les malins, entre guillemets, c'est que simplement, ça faisait partie de la fête, ça faisait partie du ramadan, et on partageait ça, et c'était quand même extraordinaire.
Et vous les avez trouvés différents de ceux, je suppose que oui.
Oui.
De ceux qui vous maintenaient en otage.
Oui, puis même du monde de Touareg, on les trouvait beaucoup plus gais.
Oui.
Plus communicants, et c'était plus facile de communiquer, de parler avec eux. Que les Touaregs, il y a une espèce de retenue et de pudeur, et c'est un peuple grave, j'allais dire, sauf quand on entre effectivement dans leur fête. Mais même les danses Touaregs ou les musiques Touaregs, elles sont pas du tout ce que l'on a entendu lors de ce voyage en Tunisie, qui c'était beaucoup plus festif, j'allais dire. Ça paraît, oui.
Et votre vie, alors, je veux pas dire que vous pouvez faire un bilan, vous n'avez pas l'âge pour ça, mais on peut toujours faire des bilans. Vous retrouvez un fil conducteur du protestantisme, finalement, sociologique, mais en même temps assumé. Et puis, votre existence de femme de scientifique, et puis... votre engagement, votre vie d'artiste, quel est le lien qui fédère un peu tout ça?
Je pense qu'il faudra encore pas mal d'années pour que je trouve
C'était la question piège. Ah,
la question piège. Je pense qu'on a, moi, je pense qu'on porte en soi notre devenir, et notre devenir, eh ben, il se bâtit au jour le jour. Le fil conducteur, c'est peut-être effectivement ce protestantisme, mais ce n'est pas que ça, parce que ça serait réducteur, hein, pour moi, si c'était qu'une question de religion. C'est peut-être une recherche, effectivement. Oui, une recherche. J'ai du mal à l'exprimer, parce que je ne sais pas très bien. Je suis très ancrée dans tout ce qui est la recherche de la beauté.
Oui.
Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi.
Ouais.
Voilà. Et moi, je me dis tout le temps que la beauté peut m'aider à avancer, mais il faut encore, qu'est-ce que c'est que la beauté? Est-ce que c'est aussi dans les rencontres avec des personnes, dans, voilà. Hein,
et ce protestantisme, comment vous le définissez?
Il peut être lourd.
Pourquoi?
Il peut être pesant. Il peut être pesant si je m'en tiens au protestantisme qu'on m'a transmis quand j'étais gamine. Hein. C'était quand même quelque chose de devoir, essentiellement de devoir, de pas forcément de culpabilité, mais de devoir. Il faut faire, il faut être tendre vers la perfection. Et ça, c'est terrible.
Et ça s'est modifié.
Heureusement. Oui. J'ai peur parfois de l'avoir un peu transmis à mes filles. Mais d'une façon, j'allais dire, un peu réductrice, voilà, hein, il faut et on n'a pas le droit de montrer non plus ses émotions,
et ça
c'est terrible.
Ouais.
Elle s'en libère bien quand même. Oui.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a permis justement de passer d'un protestantisme moraliste, il faut, à un protestantisme plus libéré?
La vie, l'Afrique.
Ouais.
Parce que lorsque vous êtes confronté à d'autres cultures, et tellement, tellement différentes de celles que l'on connaît, hein, c'est-à-dire la nôtre, on arrive quand même à se poser plein de questions, et c'est quand même drôlement intéressant pour ça. Et je pense que la vie en général, hein, et puis le quotidien, et puis j'allais dire ce que nous apportent nos enfants aussi, hein, ça nous fait quand même sacrément bouger. Et ça, c'est important de se dire que les générations à venir, elles portent elles aussi leur propre devenir, mais elles portent aussi le nôtre.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Françoise. Je remercie nos auditeurs de leur fidélité et je leur dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir, Yolande, et merci.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.